Bonjour à tous. Merci d'avoir bravé les éléments, les événements. C'est dans l'amour et la joie de notre Seigneur que je vous salue aujourd'hui. Voici venu le temps du rendez-vous avec nous-mêmes, dans l'attente de la rencontre avec Dieu. Rencontrer Dieu, être capable de changement au plus profond de nous-mêmes, peut se réaliser l'inexprimable, cette rencontre, cette réconciliation avec Dieu. Seigneur notre Dieu, tu as promis à tous ceux qui viendraient à cause de ton nom, à cause de Jésus-Christ, tu as promis d'être avec eux, avec nous. La grâce et la paix nous sont données. Toi qui es au milieu de nous, accorde-nous de te reconnaître, de t'écouter et de te chanter notre joie. Nous allons prendre le spontané 29, page 29, pardon. Nos cœurs te chantent. Je vous invite à vous lever. Si nous écoutions le rythme trop rapide de nos vies et si nous laissions le dernier mot aux tensions qui nous assaillent chaque jour, nous pourrions nous laisser convaincre que le temps d'un culte est un temps gaspillé et qu'il vaudrait mieux l'utiliser autrement. Mais pour mieux connaître le Christ, il n'y a rien de trop précieux que ce moment de respiration. Et pour approfondir la foi, aucune richesse n'est trop chère. Et puisque nous sommes justement venus pour offrir gratuitement notre temps, je nous invite à prolonger ce temps de louange avec le cantique 242. Je vous invite à vous asseoir. Donc, comme vous le voyez sur le tableau d'affichage, et comme on l'a déjà fait plusieurs fois, en lieu et place de spontané, après la loi, la prière d'humilité, l'accueil du pardon et la confession de foi, nous chanterons les strophes du psaume 77. Donc, vous pouvez le préparer dans le livre et le garder ouvert à la même page entre chaque partie du culte. Voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. À ceci, désormais, nous connaissons l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi devons donc donner notre vie pour nos frères. Si un homme qui est riche voit son frère dans le besoin, mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre avoir de l'amour pour Dieu dans son cœur? Mes amis, n'aimons pas en discours, en belles paroles, mais en actes et en vérité. Nous prenons la première strophe donc du psaume 77. Pardon, Seigneur, pardonne nos fautes, nos angoisses, nos tristesses. Nous te confessons ces difficultés, nous te remettons tous nos jours passés, la lourdeur de nos instants sans foi, sans confiance, la lourdeur de nos instants sans toi. Nous te remettons nos oublis, notre indifférence, notre égoïsme, notre absence de cette tâche que tu nous confies. Nous te remettons notre manque d'amour, notre manque de confiance en nous-mêmes, notre manque de confiance en nos frères et sœurs, notre manque de confiance en toi et tous nos doutes. En toi seul est notre espérance, en toi seul notre courage peut renaître. Seigneur, pardonne-nous. Nous prenons les strophes 2 et 3 du psaume 77. Je vous invite à vous lever pour accueillir l'annonce du pardon de Dieu. Le Seigneur Dieu est tendresse et pitié, patient et d'une immense bonté. Il ne fait pas constamment de reproches, il ne garde pas éternellement rancune. Il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité. Il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. La bonté du Seigneur durera toujours. Et voici une parole certaine que nous pouvons accueillir. Jésus-Christ est venu dans le monde pour nous sauver. Dieu nous met au cœur l'assurance de son pardon qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Chantons-lui notre reconnaissance. Nous prenons la strophe 4. Alors, je vous invite à rester debout pour la confession de foi. Et je vous donne une petite information. La semaine, il y a deux semaines, quelqu'un m'a demandé de dire... m'a confié la confession de foi du pasteur Marshall en me demandant de la dire. Et ce matin, j'ai retrouvé cette personne et j'ai pensé que c'était beaucoup mieux si c'était elle-même qui nous conduisait dans cette confession de foi.
Je crois en Dieu le Père, créateur de toutes choses visibles et invisibles. Il est esprit, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de notre Seigneur, qui a souffert et qui est mort pour nous. Il est la vie et la lumière du monde. Son règne dépassera le temps. Je crois en l'Esprit Saint, qui a parlé par les prophètes, les apôtres et les martyrs. Il donne la paix aux hommes de bonne volonté. Je crois en une seule Église universelle, à la communion des âmes dans la foi, l'espérance et la charité. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort, et j'attends la vie éternelle. Amen.
Donc aujourd'hui, et c'est pas la première fois, vous allez avoir une prédication en deux parties, une première petite partie ici, une deuxième petite partie une deuxième plus grande partie en chair, et les lectures seront faites par les jeunes du catéchisme avec qui nous avons travaillé depuis 9h du matin, les textes que vous allez entendre, et il y aura même une petite introduction qui nous sera lue par un des jeunes, à partir de notre travail de ce matin. Donc, nous prions d'abord avant d'ouvrir la Bible. Regarde, Seigneur, nous avons établi notre campement à mi-chemin de la vie. La peur et l'inconnu, la fatigue et le doute nous tiennent en ce lieu. La joie des commencements s'effrite quelquefois sur la route et le courage peut nous manquer pour des marches nouvelles. Mais fais-nous la grâce d'espérer sans retour et de t'accompagner aussi loin que mène le désert et qu'entraîne l'amour. Redis-nous aujourd'hui la parole qui fait vivre. Amen.
Ce Ce matin, au catéchisme, nous avons travaillé à partir de la phrase du prophète Ésaïe, « Quelqu'un crie. Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. » Nous nous sommes demandé pourquoi il disait cela, de quel désert il parlait et comment il voulait que les gens préparent un chemin. Et nous avons aussi regardé comment cette phrase est citée et transformée dans les évangiles quand il s'agit de Jean le Baptiseur, qui est considéré comme le messager de Jésus, celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Et nous nous sommes demandé ce que cette phrase pouvait signifier pour nous aujourd'hui. De quel est notre désert ? Est-ce que c'est un désert où nous sommes seuls ? Et comment nous pouvons essayer d'y tracer notre route ? En fait, ça marche peut-être dans les deux sens. Il faut préparer le chemin pour que le Seigneur puisse venir à nous, mais aussi se préparer intérieurement pour se rapprocher de lui.
Au livre du prophète Ésaïe, chapitre 40, versets 1 à 5. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que son combat est terminé, qu'elle s'est acquittée de sa faute, qu'elle a déjà reçu du Seigneur le double de ce qu'elle méritait pour tous ses péchés. Quelqu'un crie. Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez une route pour notre Dieu dans la plaine aride, que toute vallée soit élevée et que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpentes en vallons. Alors la gloire du Seigneur se dévoilera et tous la verront ensemble. C'est la bouche du Seigneur qui parle.
Donc nous chanterons tout à l'heure après la deuxième série de lectures. Là, je vais juste vous donner quelques éléments historiques pour éclairer ce texte que nous connaissons bien, n'est-ce pas ? Comme vous le savez, le livre biblique qu'on appelle le livre du prophète Ésaïe a été en réalité écrit par trois Ésaïes successifs. Le premier, probablement... Alors je vais parler en siècle avant Jésus-Christ, bien sûr, hein, je ne le dirai pas à chaque fois. Le premier, probablement vers la fin du 8e siècle ou au début du 7e, a produit les 39 premiers chapitres. Et je dis produit parce que écrit me paraît peut-être un petit peu... Non, on ne sait pas, voilà, s'il a écrit, s'il a dicté, donc je dis produit. Le deuxième Ésaïe, ou Deutéro-Ésaïe, prophétise au 6e siècle, plus de 100 ans après le premier Ésaïe. Et produit les chapitres 40 à 55, qu'on appelle aussi le livre de la consolation d'Israël. C'est le premier chapitre et les premiers versets du premier chapitre de cette partie que Romarie vient de nous lire. Et même si les 11 derniers chapitres, 56 à 66, ont probablement été produits un peu plus tard par plusieurs prophètes, on les attribue à celui qu'on appelle le troisième Ésaïe, quelquefois Trito-Ésaïe, et qui écrit, lui, on en est sûr, après le retour d'exil. Alors que le Deutéro-Ésaïe, c'est moins sûr, c'est justement au moment du retour d'exil. Les enfants d'Israël ont été déportés à Babylone en 587 pour un exil qui est décrit ensuite comme étant de 7 fois 7 ans, c'est-à-dire 49 ans, probablement 50 et même beaucoup plus pour d'autres. Mais nous savons bien combien les rédacteurs de l'Ancien Testament aiment les chiffres, et en particulier le chiffre 7. En 538, après que le roi perse, Cyrus le Grand, est entré dans Babylone en triomphateur, je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre prédication, non seulement il autorise les peuples qui vivent là à pratiquer leur religion, mais il autorise les déportés, ou plutôt leurs enfants, ou peut-être même les enfants de leurs enfants, à retourner à Jérusalem s'ils le souhaitent. Et le texte qu'on vient d'entendre est produit par le deuxième Ésaïe, qui fait lui-même probablement partie de ses enfants de déportés. Il est peut-être produit au moment de cette annonce de Cyrus le Grand, mais plus probablement, il est produit un tout petit peu avant, au moment où l'espoir commence à renaître, parce que ce n'est pas arrivé d'un seul coup. On savait bien ce qui allait se passer. On savait bien que Cyrus allait faire tomber Babylone. Et que justement, la perspective du retour n'est plus un rêve. Il s'agit de savoir comment donner une réalité à ces paroles de consolation. Et alors, ce chemin qu'il faut préparer dans le désert, cette route qu'il faut construire, est-ce qu'elle est pour le peuple, pour qu'il retourne à Jérusalem, ou est-ce qu'elle est peut-être pour une procession triomphale ? Les exégètes s'interrogent, et bien sûr, vous pouvez compter sur eux, ils ne sont jamais d'accord. Donc, voilà, les deux possibilités sont ouvertes, et les deux sens sont ouverts aussi. Mais une chose est sûre, en tout cas, chez ce grand poète qu'est le Deutéro-Ésaïe, comme d'ailleurs le premier Ésaïe, tous ces textes, tous ces termes, le désert, le chemin, tous ces termes ont à la fois un sens politique et un sens spirituel. Le désert, le chemin, la gloire du Seigneur prennent une dimension métaphorique. Le désert, qui rappelle bien sûr celui de la sortie d'Égypte, le lieu de toutes les frustrations, mais aussi le lieu où l'on fait passer l'Arche d'Alliance, le lieu qui rappelle aussi les souffrances plus récentes de la déportation que les générations précédentes viennent de vivre. Et c'est justement dans ce désert, dans cette plaine aride, qu'on va assister à cette explosion de joie symbolisée par le passage du Dieu d'Israël qui manifestera sa gloire à tous. Et pendant notre préparation, j'ajoute cela, un des jeunes a dit « Peut-être il faut niveler les vallées et aplanir les collines pour que de loin tous puissent voir ». Et j'ajoute aussi un bémol. Peut-être que Ésaïe crie sa joie d'autant plus fort que tous ne la partagent pas. Les enfants des déportés n'avaient peut-être pas tous tellement envie de faire le chemin en sens inverse. Et d'ailleurs, beaucoup sont restés. Et on peut se demander si ces magnifiques versets ne sont pas aussi destinés à les convaincre de rentrer. Mais si je vous ai proposé ce texte en première lecture aujourd'hui, c'est surtout parce que, nous le savons et nous allons l'entendre, il a eu un grand avenir. Un avenir qui a commencé avec sa traduction en grec dans la Septante. Un avenir qui s'est développé dans les évangiles, avec la citation de cette traduction, avec l'image et le rôle de Jean le Baptiseur. Un avenir qui a accompagné l'évolution de la foi, de la recherche du Dieu unique et l'attente de son Messie. Un avenir qui a construit la foi de générations de chrétiens et qui est encore aujourd'hui un élément fondamental de notre propre spiritualité. Et donc, nous allons maintenant entendre trois lectures dans lesquelles nous allons retrouver notre citation profondément modifiée.
Évangile selon Marc, chapitre 1, versets 1 à 8. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe. J'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. C'est celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Survint Jean. Celui qui baptisait dans le désert et proclamait un baptême de changement radical pour le pardon des péchés. Toute la Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et recevaient de lui le baptême dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de criquets et de miel sauvage. Il proclamait « Il vient derrière moi, celui qui est plus puissant que moi, et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de me baisser pour délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, il vous baptisera dans l'Esprit-Saint. »
Évangile selon Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 6. En ces jours-là, parut Jean le baptiseur. Il proclamait dans le désert de Judée, « Changez radicalement, car le règne des cieux s'est approché. » C'est de lui qu'il a été dit par l'entremise du prophète Ésaïe. C'est celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de criquets et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui et recevaient de lui le baptême dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés.
Évangile selon Jean, chapitre 1, versets 19 à 27. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu ? » Il reconnut, il ne le nia pas, il reconnut « Moi, je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent « Alors quoi ? Toi, es-tu Élie ? » Il dit « Je ne le suis pas. » « Est-ce toi qui es le prophète ?» Il répondit, « Non. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu ? Que nous puissions donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? » Il dit, « Moi, je suis celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. » Ceux qui avaient été envoyés de chez les pharisiens lui demandèrent, pourquoi donc baptises-tu si, toi, tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ? Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, au milieu de vous. Il en est un que vous ne connaissez pas et qui vient derrière moi. Moi, je ne suis pas digne de délier la lanière de sa sandale. »
Je vous invite à vous lever et à chanter avec moi le cantique 160. C'est la même musique que celui que le 105, que je crois que nous connaissons bien. On ne chantera que les trois premières strophes, pardon. Je vous invite à vous asseoir. Alors, nous l'avons tous entendu, et c'est bien ce qu'on trouve dans la Bible grecque, qui était en usage parmi les Juifs, hellénisés aussi, et parmi beaucoup de Juifs, à l'époque de Jésus et probablement pendant les deux siècles précédents. Nous sommes passés de « quelqu'un crie « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur » à « Celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ». Elle n'a l'air de rien, cette différence. Alors quoi, ce serait une simple erreur de ponctuation? Ce n'est pas tout à fait impossible. La Bible hébraïque n'avait pas de ponctuation. Mais si c'est une erreur, elle n'est pas arrivée par hasard. Je pense en fait qu'au moment de la traduction en grec de cette partie de la Bible qu'on appelle les livres prophétiques, probablement vers le deuxième ou peut-être même le premier siècle avant Jésus-Christ, la spiritualité a profondément changé. La gloire du Seigneur, celle qui, selon Ésaïe, quelques siècles plus tôt, allait se révéler à tous, est de nouveau difficile à rencontrer en cette période d'occupation. Beaucoup attendent l'arrivée imminente d'un Messie. Ils vivent donc ce qu'on appelle aujourd'hui l'attente messianique. Et parmi eux, certains ont déjà choisi, ou ils choisiront bientôt, de vivre au désert, pour justement, quelquefois en communauté, pour vivre leur attente d'une manière qui leur paraît plus authentique, pour expérimenter le manque qui creuse le désir de Dieu. Et Jean le Baptiseur est de cela, on le sait. Ce n'est pas surprenant donc qu'il ait été identifié, que lui se soit identifié et que d'autres l'aient identifié à ce messager qui crie dans le désert. Et d'ailleurs, vous l'avez sans doute remarqué, même au long des fils des textes, au long des lectures de l'évangile, des évangiles, dans les textes eux-mêmes, il y a une évolution de l'utilisation de la citation quand elle est appliquée à Jean le Baptiseur. On est passé de « mon messager », celui qui crie dans le désert, ça c'est dans l'évangile de Marc, à « moi, je suis celui qui crie dans le désert » dans l'évangile selon Jean. Et le plus important, c'est bien ce cri qui, par un glissement de sens, est maintenant lancé dans le désert. Eh bien, je trouve que nous devons beaucoup à ce glissement de sens. Il donne au cri du prophète une intensité dramatique. D'abord parce que celui qui crie dans le désert, personne ne l'entend, personne ne lui répond. Il n'y a peut-être même pas d'écho. Comme l'a dit l'un des jeunes tout à l'heure, il se sent seul au monde. Alors bien sûr, beaucoup de questions peuvent se poser à nous. Pas des réponses en fait. C'est un texte, des textes, ce sont des textes qui, pour moi, suscitent des questions, mais des questions qui demeurent en nous, qui nous habitent. Peut-être que le prophète s'époumonne en vain. Peut-être qu'il nous dit aussi que ce n'est pas forcément grave si personne ne nous entend. Est-ce qu'il faudrait continuer à crier malgré tout? Et puis, voilà que par ce glissement de sens, le chemin qu'il nous exhorte à préparer, ces fameux sentiers que nous ne devons plus aplanir mais rendre droits, il y a bien sûr une connotation beaucoup plus morale, ce chemin n'est plus tout à fait le même. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ces sentiers. Ces cris des prophètes Ésaïe et Malachie ont pris pour nous un sens aujourd'hui uniquement spirituel. Nous sommes invités à un cheminement intérieur, à un travail de retour sur nous-mêmes, à un dépouillement. Et bien sûr, ce dépouillement intérieur, Jean le Baptiseur vient nous en donner l'exemple, un exemple visible. En rappelant cette phrase d'Ésaïe, telle que la Bible grecque l'avait transmise, donc telle qu'il la connaissait, les évangélistes ont profondément façonné notre foi. Nous savons dès le début de la bonne nouvelle que Jean le Baptiseur annonce Jésus, que ce Seigneur à qui il faut préparer un chemin, parmi nous et surtout en nous-mêmes, maintenant c'est Jésus. Jean le Baptiseur, ce dernier prophète, on dit souvent de lui qu'il a un pied dans l'ancienne alliance parce qu'il est habillé en particulier parce qu'il est habillé comme son prédécesseur, le prophète Élie, décrit dans le deuxième livre des Rois, et un pied dans la Nouvelle Alliance, parce qu'il est le premier à identifier Jésus au Messie. Eh bien, Jean a une grande autorité, il a sans doute des disciples, et on l'a entendu, quand il crie dans le désert, en réalité, les gens l'entendent. Toute la Judée, ou en tout cas un grand nombre de Juifs, viennent recevoir son baptême, cet acte qui pour eux est déjà une manière de préparer le chemin du Seigneur. Et pourtant, avant même qu'ils disent le nom de celui qu'il annonce, avant même qu'ils l'aient rencontré, en tout cas tel que ça nous a été raconté par les évangiles, Jean vient affirmer que sa propre autorité, à lui, Jean, n'est rien comparé à celle de Jésus. Ce serait encore trop d'honneur pour moi que de me baisser pour délier la lanière de ses sandales. C'est une très belle image, une image que nous aimons bien sûr tous, que nous connaissons, qui nous a aussi façonnés. Une image qui elle aussi doit beaucoup au désert, ce lieu où il est impossible de marcher pieds nus. Mais à l'époque, si Jean l'a vraiment dit comme elle est, au moment où elle est dite et comme c'est raconté, eh bien, je me demande comment ceux qui l'ont entendue l'ont comprise. Elle devait paraître extrêmement étrange. Alors que pour nous, aujourd'hui, bien sûr, cette phrase fait partie de l'annonce, de la bonne nouvelle qui nous accompagne tous. Car dans la foi comme dans le doute, nous connaissons cette image, nous l'aimons, parce que, comme l'image de celui qui crie dans le désert, elle a façonné notre recherche personnelle et communautaire, notre désir d'annoncer et de servir, tout en sachant, comme Jean le Baptiseur avec cette histoire de sandales, que nous n'en serons jamais tout à fait capables, jamais vraiment dignes. Ce commencement de la bonne nouvelle, il se vit plutôt mal en réalité. Il débute dans les cris et le désert, ce lieu aride où justement les cris ne reçoivent pas de réponse. Il se poursuit avec cette annonce magnifique, une histoire de sandales que personne ne peut comprendre à l'époque. Et plus tard, on pourra même penser que pour Jean le Baptiseur, comme pour Jésus, l'aventure se termine dans la mort. Alors aujourd'hui encore, certains d'entre nous, en fait chacun d'entre nous, nous tous bien sûr, nous avons tous dans notre vie des moments de désert, des moments où nous crions en silence ou en faisant au contraire un peu trop de bruit pour qu'on nous entende. Un peu trop de bruit pour qu'on nous entende et un peu trop de bruit pour qu'on puisse nous entendre. Des moments en fait où nous nous préoccupons fort peu du Seigneur et de ses chemins, mais uniquement de notre propre désert. Et c'est là, peut-être, que nous avons un travail à faire. Et pourtant, ce que ces textes nous disent dans leurs traductions successives, à l'intérieur de leur histoire, ce que Jean le Baptiseur savait bien, et ses disciples avec lui, c'est que c'est justement dans cette expérience spirituelle du désert, cette expérience dont on a entendu, je pense, qu'elle est à la fois littéraire et spirituelle et intérieure, dans cette expérience que nous pouvons faire également l'expérience d'une proximité avec Dieu. Dans cette histoire, dans l'histoire du texte même, au cœur de son évolution, nous pouvons nous aussi trouver l'espérance, parce que cette histoire nous dit que le désert est habité et que nos cris sont entendus. Celui que Jean le Baptiseur attendait nous a rejoints. Il ne cesse de nous rejoindre, ici et maintenant, dans notre propre désert. Il est avec nous, dans les chemins que nous ne savons pas préparer pour lui, dans les sentiers tortueux que nous ne savons pas rendre droit. Il ne cesse de nous rejoindre dans le désert de notre humanité, pour que tous puissent voir sa gloire. Amen. C'est le moment des annonces, non? Non? Il y en a plusieurs, Michel, je vais en faire un peu, mais si vous voulez commencer peut-être.
Je voulais faire une annonce concernant une cérémonie qui aura lieu mardi après-midi à 15h au Foyer de l'Âme, qui est un culte qui sera, enfin c'est pas un culte, en fait c'est une célébration musicale en l'honneur à la mémoire de Pierre Beauchamp, qui est un ami très proche de Frédéric de Villenoisy et qui est décédé il y a une dizaine de jours. Frédéric a souhaité donc organiser cette cérémonie en sa mémoire mardi. Nous serons nombreux à l'accompagner évidemment, et je crois que c'est le pasteur Philippe Houssy qui célébrera cette réunion avec Catherine Axelrad. Je voulais donc vous inviter à vous joindre à nous également. Et puis deuxième annonce qui est plus joyeuse, celle-là, concernant le déjeuner de paroisse que nous ferons pendant le culte de Noël, qui est, rappelle-moi, le 16 décembre. Nous aurons un culte de Noël le matin et nous souhaitons faire évidemment un repas de paroisse, et nous avons vraiment besoin de bonne volonté, puisque Simon et Céline, qui nous accompagnent souvent ces occasions, ne peuvent pas le faire puisque Céline est elle-même occupée dans une autre paroisse pour faire la même chose. Donc nous avons grand besoin d'aide, en particulier en cuisine, pour préparer pendant le samedi et également pendant le dimanche. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre contact soit avec Isabelle, soit avec moi-même pour vous déterminer si vous avez des possibilités de nous aider. On en aura bien besoin.
Autre chose ?
Alors, bien sûr, la fête de l'amitié. La fête de l'amitié, bien.
Alors, bon, écoutez, je suis ravie de revenir parler de la fête de l'amitié à vous tous, n'est-ce pas? Et je pense que vous êtes tout à fait aussi contents d'entendre des nouvelles. Alors, donc, les choses avancent, tout le monde se prépare, et vous trouvez au fond du temple, sur le truc de droite, là, enfin, pardon, les bahuts, des listes, comme d'habitude, pour s'inscrire, si vous le souhaitez, si vous le pouvez, si vous en avez envie, pour faire des gâteaux, des choses pour le salon de thé, le stand pâtisserie, et voilà. Il y a également une liste pour s'inscrire, pour venir installer le temple le mercredi soir, une autre liste pour s'inscrire, la même, pour s'inscrire, pour venir ranger le dimanche soir à partir de 18h, et une dernière liste pour ceux qui veulent éventuellement participer à des comptoirs, à tenir des comptoirs. En fait, il y a des comptoirs, par exemple le comptoir de livres, tout va bien, on a trouvé tous ceux qui sont nécessaires pour le tenir, mais peut-être qu'il y a des besoins pour la brocante, je ne sais pas, et en tout cas pour les fripes. Pour les fripes, il y a deux stands, il y en aura un ici, et un autre dans la petite salle dehors, enfin à l'entrée, et là vraiment on aurait besoin d'aide. Voilà, donc toutes ces listes sont là-bas, et puis vous pouvez nous en parler aux uns et aux autres, à Christine, à moi-même. Dernière chose, Christine a préparé des billets de tombola, et si vous en voulez, on est prêt à les vendre. Allez voir Christine.
Signaler également que nous allons recommencer avec Isabelle cette semaine un gros travail de mise à jour des fichiers, et en particulier d'essayer de récupérer toutes vos adresses mail. On se rend compte que nous avons finalement peu d'adresses mail, même si certains d'entre vous ont eu la gentillesse de les rajouter sur le cahier qui est au fond du temple. Donc il se peut que nous vous appelions directement. Quand on n'a pas le mail, on appellera au téléphone, et si on a le téléphone, et inversement, on vous enverra un mail si on n'a pas votre téléphone, de façon à repartir sur un fichier des membres de la communauté qui soit plus complet et qui nous permette aussi de vous envoyer des informations plus régulièrement. Peut-être que je vais passer la parole à Michel Tally, notre trésorier, qui a aussi des choses très importantes à vous dire.
Oui, simplement, vous avez, ceux qui ont déjà lu le bulletin amitié de ce mois-ci, vu la petite page que j'ai écrite là-dessus, comme tous les ans, c'est en décembre, dans les deux, trois dernières semaines, qu'on fait l'effort qui nous permet de presque boucler le budget. En général, il manque toujours un petit bout. L'année dernière, on avait carrément fait un appel qui avait été envoyé par la poste individuellement à la plupart d'entre vous, enfin à toutes les personnes qui étaient dans le fichier et qui étaient co-signées par le pasteur et par moi-même. C'était un appel exceptionnel qui avait donné effectivement de bons résultats en novembre-décembre. Personnellement, je répugne un peu à envoyer un appel exceptionnel tous les ans, parce qu'un appel exceptionnel tous les ans, ce n'est plus un appel exceptionnel. Donc, je l'ai fait sous une autre forme dans le bulletin. Sur les montants, il nous faut pratiquement 20 000 euros de dons anonymes d'ici la fin de l'année pour boucler le budget, c'est-à-dire que sur 73 000 qu'on avait inscrits au budget, on n'en est qu'à moins de 50, quoi. Bon, ce qui est quand même, alors qu'on est le 11 novembre. Il y a aussi un aspect pratique, c'est que ça oblige à faire des acrobaties en fin d'année pour déposer les chèques à l'encaissement, faire le virement à la région avant la fin de l'année pour son budget aussi, ce qui est un petit peu compliqué. Donc si vous pouviez faire à la fois un effort quantitatif et de date, ça serait apprécié. Dernier élément, je sais que beaucoup gardent une préférence pour le don anonyme et notamment au culte, et on n'a rien contre les dons anonymes à la collecte. Simplement, je leur rappelle l'élément fiscal qui fait que s'ils le faisaient de façon nominative, ils pourraient donner trois fois plus pour le même coût. Alors je sais qu'il faut rendre à César ce qui est à César, mais il ne faut pas refuser non plus les cadeaux de César. Quand César veut faire un cadeau aux églises, autant l'accepter et faire un don plus symbolique à la collecte et de façon nominative plus important. Ça vous permettra de donner beaucoup plus pour le même coût pour vous. Voilà, merci.
Merci beaucoup Michel. Et j'ajoute à propos des dons nominatifs une information qu'on n'a pas toujours, parce qu'effectivement on constate en ce moment, c'était la même chose là où j'étais avant, et le conseil régional en parle régulièrement dans les synodes, on constate en ce moment que les dons nominatifs ont tendance à baisser, même si les dons en général ne baissent pas. Or le don nominatif, les informations sur les dons nominatifs, pas les noms, mais les informations remontent au conseil régional, et d'une manière ou d'une autre, le rayonnement d'une paroisse est envisagé aussi sous cet angle. Donc le don nominatif est important. Voilà. J'ajoute alors pour les annonces de cette semaine, donc demain le temple sera ouvert à midi. Mardi, le déjeuner biblique a bien lieu avec bien sûr le pasteur Patrice Rollin. Et j'essaierai d'être aussi là. Et donc, il y a la célébration musicale pour Pierre Beauchamp l'après-midi. À 19h30, je ne sais pas si quelqu'un est concerné ici, mais le groupe œcuménique se réunit. Et d'ailleurs, il est ouvert à tous. Nous allons travailler... nous essayons de travailler au groupe œcuménique sur les différentes conceptions de l'interprétation du texte biblique. Et donc, le projet de travail pour la séance de mardi... c'est la vocation de Samuel, le jeune Samuel. Et puis, samedi matin, il y a aussi la réunion du groupe Évangile et Liberté au Temple. Et je vous prie de m'excuser, ce sera le synode et donc je ne pourrai pas y assister. Il faut l'annoncer au... Pardon. Et donc, excusez-moi, le conseil presbytéral se réunit, je ne savais pas qu'il allait... se réunit mercredi soir, pardon. Voilà. C'est le joyeux moment de l'offrande, qu'elle soit nominative ou pas. Et donc nous allons chanter à l'accompagner du cantique 258. Et je crois que vous avez l'habitude de vous lever pour ce cantique. Je vous invite à vous asseoir. Unissons-nous dans la prière fraternelle. Seigneur, il ne faudrait pas que notre prière soit une manière de rester en retrait, en te laissant le soin de faire tout le travail. Aussi, donne-nous le courage, là où nous vivons chaque jour, de ne pas mettre sous le boisseau notre attachement au Christ. Donne-nous le courage d'ouvrir nos yeux sur les injustices et de les résoudre avec nos faibles moyens, en partageant mieux. Donne-nous le courage de participer activement à notre communauté paroissiale, afin qu'elle devienne le lieu où notre vie, avec ses conflits et ses recherches, se trouve éclairée par notre foi. Ne nous laisse pas au repos, Seigneur, tant que notre foi n'imprime pas son exigence sur l'éventail de toute notre vie. Nous t'en prions. Aide-nous à être de ceux qui croient, à être de ceux qui cherchent chaque jour. De nos pensées et de nos mots, de nos gestes et de nos silences, monte le cri des hommes et la détresse et la bonté, et aussi les murmures des voix que l'on oublie. Nous portons aujourd'hui dans notre prière ceux que nous aimons, ceux que nous aimons et que nous avons perdus. Seigneur Dieu, fais-nous espérer et aller aussi loin qu'entraîne ton amour. Élargis l'espace de nos vies pour être tes témoins. Par ton esprit, élargis notre prière aux dimensions du monde. Et c'est dans cet esprit qu'ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Dans le désert, préparons le chemin du Seigneur, rendons droit ses sentiers. Allons et marchons, que le monde voie notre lumière, qu'il entende notre joie, car nous sommes les témoins de la présence de Jésus-Christ parmi les humains. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Il tourne sa face vers vous et vous donne sa grâce. Il porte son regard sur nous tous et nous donne sa paix. Amen. Nous prenons le spontané page 30. Alléluia.